Jésus. Oui, Seigneur, montre-nous encore plus le courant d'eau de la vie. Dévoile-nous, Seigneur. Fais-nous, prends-nous libres ce matin d'écouter ta parole. Nous faisons confiance à ton approvisionnement. Nous te faisons confiance que tu nous donnes tout pour bâtir ta maison. Seigneur Jésus, nous te louons et nous lavons nos robes et nous entrons dans la ville. Gloire à Dieu. C'est beau d'être ici. Et c'est bien qu'on soit un peu plus nombreux ici. C'est clair que le nombre n'est pas important, mais c'est beau d'avoir de la communion. Nous faisons confiance au Seigneur et nous comptons sur lui pour qu'il se révèle à nous. Il l'a déjà fait. Il nous a parlé. Il nous a montré. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose? Il nous a montré quelque chose. Est-ce que tu as mangé déjà? Est-ce que tu as bu quelque chose? Cette révélation que le Seigneur nous donne, c'est une motivation pour notre expérience spirituelle. Quand nous buvons, quand nous parlons l'eau de la vie, c'est pas un endroit où nous nous rendons, à une fontaine. Non, mais où est donc cette eau de vie? J'ai pensé que ce serait bien qu'on relise deux versets dans Jean, Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, versets 38 et 39. Nous parlons d'un côté de l'eau de la vie, mais nous parlons en fait de l'Esprit. En nous, quand nous sommes nés de nouveau, oui, le Seigneur nous a fait naître de nouveau et il nous a donné son esprit. Et cet esprit est cette eau de vie. C'est pourquoi de notre sein peuvent couler des fleuves. Nous n'avons pas besoin de faire un pèlerinage pour avoir ça. Cette eau est dans l'esprit, dans notre homme intérieur. Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. C'est vraiment une assurance à laquelle nous pouvons tenir ferme. Oui, dans la réunion, nous savons que l'esprit coule. Certains disent, il faut qu'on me cherche pour que je puisse aller à la réunion parce que là, il y a quelque chose qui coule. Oui, mais si nous sommes à la maison ou au travail ou n'importe où, alors on fait quoi? Où est cette eau vive? Elle est en nous, dans notre esprit. Et c'est pourquoi c'est si près, si proche, si facile. Appelons le Seigneur et nous serons remplis. Encore dans Jean 5, on a lu un verset déjà au préalable. Le verset 39, Jean 5, 39 et le 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Où est-ce que le vie?
Où est donc cette vie éternelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ô Seigneur, comment avons-nous cette vie éternelle? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait que lire la parole? Non, on vient à lui et on boit et on mange aussi. Quand nous venons à lui, nous avons la vie. Est-ce que ce n'est pas une grande indication que le Seigneur nous donne? Ça ne suffit pas si nous lisons juste la parole ou si on la sonde. Nous devons avoir la vie. On va poursuivre. On aimerait avoir de la communion ce matin à propos de l'arbre de la vie. On va retourner dans l'Ancien Testament. Ceux qui veulent peuvent prendre, ceux qui veulent lire peuvent lire. Dans Apocalypse 22 est en fait la suite de Genèse. Puisque dans Genèse, on voit que Dieu a fait l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait de lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Eh bien, il a planté un jardin pour lui. Ça, c'est merveilleux. On pourrait lire dans le chapitre 2 de Genèse, le verset 8. Donc, ils vont lire tous dans une traduction allemande. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Ça, c'est déjà merveilleux de voir cet arbre de vie dans le jardin d'Éden et de voir ce fleuve. Ces deux choses vont ensemble. On a entendu. Ouais, on a vu que ces deux choses allaient ensemble. On le voit dans l'Apocalypse. Si je ne me trompe pas dans mes recherches, c'est vraiment dans Apocalypse que ces deux choses reviennent. J'ai un peu cherché. Ici, on voit d'abord un jardin que Dieu a planté. N'est-ce pas beau? L'homme n'a pas été créé et puis simplement mis quelque part. Mais Dieu l'a placé dans un jardin. On parle ici d'un vrai jardin. Pas un jardin communautaire comme on voit près des immeubles. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Non. Ici, on parle d'un jardin que Dieu a planté. Quand Dieu fait un jardin, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial. Je pense que c'est bien de s'y trouver. Il y a beaucoup de jouissance. Il y a l'arbre de la vie au milieu du jardin. Celui-ci, il personnifie, il symbolise la vie. On a beaucoup parlé de la vie. Mais c'est quoi la vie, au fond? C'est quoi la vie? Comment est-ce qu'on peut définir la vie? Est-ce que c'est en allant au magasin qu'on peut obtenir de la vie? La vie, c'est un mystère, en fait. La vie, c'est le Seigneur lui-même. Dans cet arbre de la vie, la vie de Dieu est personnifiée, elle le représente en entier. C'est la vie elle-même. Nous voulons avoir la vie, Seigneur Jésus. Et dans cet arbre, il y a la vie. C'est en fait une image pour le Seigneur, ça on le sait, parce que lui est la vie. Tout en lui est la vie. En lui était la vie. Où y a-t-il la vie? Ouais, un petit peu de vie, tu peux en trouver un peu partout. Dans la musique, peut-être. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas un peu de quelque chose qui nous vivifie, mais la vie elle-même, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est cet arbre, l'image de cet arbre. Ce serait tellement merveilleux. Qu'en pensez-vous d'avoir ces jardins, d'être avec cet arbre? Il n'y a vraiment aucun manque. Mais, comme on a déjà dit, il y a un autre arbre qui est tellement compliqué et on peut... Ouais, comment s'appelle-t-il? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, ça se complique, là. Ça sonne pas mal, hein. C'est assez intéressant, en fait. C'est dialectique, comme on dit. Ni bien ni mal, c'est bien et mal. Et la connaissance de tout ça, c'est intéressant. L'homme moderne, je suis sûre qu'il y trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit dans les classes? Qu'est-ce qu'on dit aux étudiants aujourd'hui? Justement, avoir cette attitude de prendre en compte les autres aspects, les autres opinions, les autres visions. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? C'est ça qu'on apprend aux jeunes. Et cet arbre, il est là. Au jardin. On a parlé de la mort, je viens de l'entendre. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cet arbre? Bien sûr, il a un beau nom. Beau, on s'est à discuter, mais intéressant, oui. Le Seigneur dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Le jour où l'homme a mangé. En fait, on pourrait l'appeler l'arbre de la mort. Mais si on l'appelait comme ça, qu'est-ce qu'il en mangerait? Dites-moi. Vous savez, on a certaines personnes achètent de ces boîtes où il y a écrit que celui qui mange ça, qu'il prend ça, il est en danger de mort, ça tue, et pourtant ils prennent. Et pourtant, l'homme a mangé de cet arbre. Au chapitre 2, il est dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 15. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a mis des mots là-dessus. Il l'a dit. Et au chapitre 3, ça continue. Là arrive le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, verset 1, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ça, c'est une question un peu tordue et pourtant intéressante. Là, le serpent, il commence une discussion et il met le doute. Et puis, il se rapporte à Dieu. Le serpent ne cite pas Dieu. Il essaye de parler à la place de Dieu. Il met quelque chose dans la tête de celui qui l'entend. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Déjà, là, commence à discuter avec le serpent. Et là, la femme, elle répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et qu'est-ce que le serpent répond? Vous ne mourrez point. Alors là, il y a le mensonge qui apparaît. Un mensonge crasse, clair. Ce mensonge n'apparaît pas tout de suite. D'abord, il y a ce questionnement, ce doute, cette confusion, on commence à parler, à s'interroger, à mettre en doute ce que Dieu a dit. Un arbre qui est utilisé. Il n'était pas là pour être mangé. Mais le Satan, en fait, il fait de la pub pour cet arbre. Il y a quelqu'un qui a de l'intérêt à faire ça. Qui a intérêt à ce que tu manges de cet arbre? Aujourd'hui, il manque un peu le temps pour. Mais la plupart le savent. La suite, tout le monde la connaît. Eh bien, Ève et Adam ont mangé les deux de cet arbre. Et c'était comme un jeu de domino qui a entraîné des conséquences l'une après l'autre. Ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés, ils ont essayé de s'aider eux-mêmes. Et quand Dieu veut avoir de la communion avec eux, il doit les chercher, les appeler. C'est cet arbre qui a amené cette chute, cette corruption. Cet arbre a amené une certaine connaissance, c'est vrai. Oui, Dieu le confirme d'une certaine mesure. Mais cet arbre a aussi, disons, coupé l'accès à l'arbre de vie. Je cherche la référence. Au verset 23. ou 22. Donc le frère est en train de chercher. Oui, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre d'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà l'histoire. Le chemin pour accéder à l'arbre de vie est barré. Depuis ce moment-là, il est bloqué. Il n'y a plus d'accès. Dieu n'a plus permis à l'homme d'en manger. Jusqu'à quand? Où sont nos jeunes? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question?
On dirait
d'abord c'est jusqu'à Apocalypse 22. Là, on voit l'arbre de vie. Et ouais, il y a un accès à nouveau. Mais si on pense à ce chemin qui a été bloqué, alors on sait aussi que Jésus a ouvert ce chemin à nouveau. À la croix, quand il a été crucifié, il y a un nouveau chemin qui a été ouvert. Dans ce temple physique à Jérusalem, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Personne, aucun homme ne l'a fait. Depuis en haut jusqu'en bas, ce voile a été déchiré et le chemin a été nouveau ouvert. Dans Hébreux 10, on en parle justement. Verset 19. Nous avons, par le sang de Jésus, un accès dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Ce chemin a été ouvert par la mort du Seigneur et aussi par sa résurrection. Oui, ce chemin a été rendu possible, inauguré. Et c'est vrai, ce chemin qui mène à l'arbre de vie a été ouvert à nouveau. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de la communion sur cet arbre de vie, sans parler seulement de quelque chose qui nous attend dans l'avenir. Oui, aujourd'hui, on peut voir que le Seigneur se révèle à nous en tant que cette eau de vie, mais aussi en tant que cet arbre de vie. Et on peut le manger aujourd'hui. Voilà, on a de nouveau ce mot important, manger. Oui, on peut manger du pain, mais il y a aussi des fruits qu'on peut manger. N'est-ce pas merveilleux? Les fruits de l'arbre de vie, on peut les manger. C'est tellement riche. Mais nous devons venir et nous avons le droit de venir. Ça m'a réjoui dans la deuxième réunion. Quand il a dit on est invité, ben voilà, il faut y aller.
lasst uns doch gemeinsam essen.
Mangeons ensemble, viens. Mangeons, nourrissons-nous de cet arbre de vie. Jeunes frères et sœurs, quand vous vous rencontrez, on peut faire un... Oui, vous pouvez faire des tas de choses. Mais approchez-vous, allez aussi ensemble manger de cet arbre de vie, c'est tellement précieux. C'est beau dans cette conférence. On peut avoir à nouveau des invités. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs chez nous et c'est beau de pouvoir ensemble venir au Seigneur. C'est bien la réunion, mais aussi le matin, pendant le petit déjeuner ou le soir, d'être ensemble et nous approcher ensemble du Seigneur. Peut-être personne, tout le monde n'a pas le courage, je peux comprendre, mais oh, c'est tellement beau, ce chemin de pouvoir manger ensemble, Seigneur. Faisons-le. Et le Seigneur a promis d'être riche pour nous. Il est riche pour nous. Et ça nous édifie. Ça nous édifie pour être son Église. J'aimerais aussi parler un peu de cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Parce que ce ne serait pas équilibré de ne pas parler de lui. C'est vrai qu'on veut se fixer, s'orienter vraiment vers l'arbre de vie. Ça, c'est sûr. Et c'est de cet arbre-là qu'on veut manger, bien entendu. Mais il faut un peu savoir ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ouais, en lisant Apocalypse 22, il y a quand même des choses qui sont nommées. Et quand je le lis, je suis un peu surpris. Je me dis, c'est pas possible. On est quand même à la fin de la Bible. La Nouvelle Jérusalem est là, le fleuve de vie, le trône est là. Il y a, à la fin, il y a quelque chose d'autre, des gens qui sont des menteurs et qui... qui sont des chiens, des magiciens, des débauchés, verset 15. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut le dire. Ce matin, on a parlé de ça, on s'est dit c'est certainement important qu'on en parle dans le siècle où on vit. Il y a quelque chose qui existe. Il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a encore Satan qui amène la mort. Il y a encore toutes ces publicités pour cet arbre de la connaissance du bien et du mal et qui veut nous donner des lois de cet arbre. Il y a tant de publicités pour cet arbre. Mais le Seigneur dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaissance? On laisse de côté toute la connaissance et nous prenons la vie? La vérité, elle va rester. Il y a des promesses merveilleuses qui nous disent qu'on va connaître le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une des caractéristiques du Nouveau Testament qu'on va le connaître tous? Mais cette connaissance de Dieu, elle reste, elle édifie. Et c'est celle-là qu'on veut avoir. Et c'est pour ça qu'on vient lire la parole. C'est pour ça qu'on se nourrit de la vérité. Et c'est pour ça qu'on sonde les Écritures pour le connaître. Et on n'est pas superficiel quand on lit dans la parole. L'important, c'est d'être sauvé. Le reste, c'est pas si important. Non. On veut connaître la vérité qui est dans la parole. Nous l'aimons. Mais comme c'est dit dans Jean 5, on veut venir à lui. On veut pas une connaissance qui est suffisante, qui nous remplit la tête, qui t'enthousiasme, mais en fait qui t'éloigne du Seigneur. Cette connaissance qui est si élevée que, en fait, elle t'éloigne de Dieu. Ça, c'est justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance qui te coupe de Dieu. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé. Mais le Seigneur doit nous le montrer, c'est simple. Il veut nous apprendre à discerner. Il m'apprend à discerner. Il n'y a pas un catalogue, une méthode. Parfois, on sent que c'est pas OK. Moi, je peux vous dire, comme exemple, c'est pas un exemple à 100% à prendre comme ça, mais je suis dans mon truc et je me dis, ça c'est OK, ça c'est OK, ça, ça va bien. Et tout à coup, tout va bien, mais c'était pas le Seigneur. Ouais, c'est OK, c'est vrai, c'est juste. Mais c'est quand même pas ça. On doit apprendre à discerner, apprendre à suivre le Seigneur. C'est vraiment un mystérieux. Quand les frères étaient dans les Actes et se laissaient conduire par l'Esprit, et toujours ce qui arrive là-bas, ils ont témoigné, ils avaient le sentiment. Parfois on entend ça, des gens qui disent, le Seigneur m'a dit que je dois faire ceci ou cela. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire. Moi, personnellement, je n'ai pas trop le courage de dire ça. Pas en ce qui concerne la vérité. Le Seigneur m'a dit qu'il est ressuscité. Le Seigneur nous a dit qu'on a la vie éternelle, qu'il veut bâtir son Église. Ça, c'est des choses. C'est des choses qu'on ne peut pas renier, qui sont fermes, vraies. C'est une base. Mais quand on dit j'ai l'impression que, ben soyons prudents. C'est vrai, le Seigneur, il conduit. Parce que sinon, tu fais peut-être le premier pas est correct, après tu atterris n'importe où. C'est mystérieux. Apprendre à discerner. Souvent, ça consiste simplement à rester proche de Dieu, s'attacher à lui. Dans l'Ancien Testament, ouais, il y avait une sorte de... Il tirait, au sort, en fait. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est pas comme ça. C'est un pas pour comprendre, saisir ce qu'est la vie. Il n'y a pas de schéma. Même si tu demandes quelqu'un, c'est bien parfois, mais demande d'abord au Seigneur. Et si on a demandé à une personne, redemande encore au Seigneur si cette réponse, elle est de lui. Nous voulons suivre la vie, donner de l'espace à la vie, manger de cet arbre de la vie. Il y a un exemple très connu qui parle de la connaissance qui amène à la mort. C'est dans Romains 7 et moi je trouve que c'est un chapitre qui le montre très clairement. Paul reconnaît que ce qui est bien habite pas en lui. Et il dit même qu'il aimerait faire le bien. Il a donc la connaissance du bien et du mal. Mais au verset 19, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il a reconnu, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Oui, il a reconnu qu'il fait le mal qu'il ne veut pas aussi. Ça, c'est une caractéristique de la connaissance. Ça peut être très fascinant et ça peut paraître motivant, mais il n'y a pas de force là-dedans. Tu sais ce qui est bien, tu peux même tout nommer, mais quand tu veux le faire, en fait, c'est que de la connaissance. Tu n'as pas la force de l'accomplir. Tu tombes dans le mal. Tu le sais? Est-ce que c'est pas effroyable? Tu sais ce qui est bien et tu peux pas le faire. Et tu fais le mal à la place. Et tu, en plus, tu le sais. Mais c'est terrible. Cette connaissance, c'est la mort. Dans tout ce passage, dans Romains, Paul, et c'est bien qu'il le dise, et c'est bien qu'on en parle, Paul le dit qu'on peut glisser dans ce domaine et que cette connaissance, parce qu'elle est seulement une connaissance du bien et du mal, qu'elle nous conduise dans la mort, en fait. Nous devons venir au Seigneur. C'est ce que Paul a fait. C'est ce qui est marqué dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Ça, c'est la vie. C'est pas seulement une compréhension, c'est une expérience. Parfois, ça se passe vite, parfois plus lentement, mais il y a quelque chose qui agit. Oui. Être affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une puissance qui œuvre et qui libère, et c'est le Seigneur. Seigneur Jésus, on devrait en avoir plus avoir cette réalité pour être fortifié. Ça nous concerne tous. Les plus jeunes qui apprennent à manger. Aujourd'hui, il n'y a plus le petit bébé qui était là. Nous aussi, les adultes, nous mangeons. Parfois, on doit changer notre nourriture. Et celui qui est encore plus âgé, il doit peut-être même se forcer à manger et boire. Est-ce que vous en connaissez des personnes âgées qui doivent se forcer à manger et à boire? Ils ont besoin vraiment de notre motivation. Il faut qu'ils boivent. Bois assez. Mange assez. Ouais, ça produit des miracles. Peut-être sommes-nous très vieux déjà dans notre foi. Eh bien, n'oublions pas que boire produit des miracles. L'arbre de la vie produit, fait des miracles. Ne dis pas, ça c'était le début de la vie chrétienne, maintenant, et autrement, autrefois je faisais comme ça, oui, c'était bien. Je touchais le Seigneur profondément, mais aujourd'hui, trois petits points. Est-ce qu'aujourd'hui, la connaissance, elle te fait mourir? Aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles choses. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu, entendu cela? Seigneur Jésus, non, il n'y a pas de nouvelle connaissance. Ce qu'il nous faut, c'est l'arbre de la vie. Cet arbre nous donne la force, nous approvisionne. On peut aussi lire des versets dans 2 Timothée, par exemple. Au chapitre 3, au verset 5. Il parle d'hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a à nouveau cet aspect de cette force qui n'est pas là. C'est simplement une apparence de piété. C'est qu'une forme, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force là-dedans. C'est pour motiver l'âme. Peut-être même ça nous enthousiasme. Il y a quelque chose qui bouillonne et ça doit sortir, ça doit être dit. Quand ça bouillonne comme ça, le Seigneur doit aussi nous sauver. Et on doit se rendre compte, peut-être que ce n'était pas la vie. Parfois, ça nous arrive à tous. Dans ce thème ou dans un autre thème. Dans certaines choses, je peux vous dire, dans certains aspects de la vie, on ne peut pas s'en empêcher. Les enfants, par exemple, ils vous amènent vraiment à bouillonner des fois, mais le Seigneur doit nous sauver. Paul dit à Timothée, par rapport aux choses spirituelles, pas des autres aspects de la vie, il nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. On ne doit pas être détourné. Toutes ces choses qui nous font bouillonner, mais qui nous amènent loin de cette communion avec le Seigneur et cette communion entre nous, de ces choses-là, on doit s'éloigner. Par éloigne-toi avec le Seigneur, bien sûr. On ne peut pas jeter nos ordis et nos smartphones. Si on veut vivre dans ce monde, on en a besoin. On doit être informé. Mais il y a aussi des fois un moment où on doit s'en détourner. Ça, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Mais il y a un écho en nous, souvent, dans l'âme. souvent notre âme, elle est motivée par des choses non spirituelles. Et en hébreu, il nous dit qu'on doit faire la différence entre l'esprit et l'âme. Cette parole peut le faire. Il dit à cet endroit, oui, que ça vient par la parole de Dieu. Parce que cette parole est une épée tranchante qui partage l'âme et l'esprit. Et ça nous aide à choisir l'esprit, en fait. Ça, c'est le chemin, choisir l'esprit. L'esprit est bon pour l'édification, pour la croissance. L'âme n'a qu'une bonne apparence. D'après la connaissance, c'est pas mal, mais il faut voir les fruits. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu que l'âme doit être séparée de l'esprit. On peut entendre différentes choses, on pourrait essayer ceci, cela, mais discernons. Discernons ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair, de l'âme. Qu'est-ce qui vient de l'esprit, et choisir la vie, c'est ça en fait, choisir la vie. Être dans la parole, chercher la communion, ça nous aide à discerner. Ça, je suis en train de dire. Ah oui, ne discerner que d'après la théorie, c'est pas si évident. Si tu ne veux pas donner une liste, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel, ça c'est l'âme, l'esprit, ça c'est difficile. Mais le point, c'est de choisir la vie. Et on prend alors la parole, et cette parole, elle tranche notre esprit. L'esprit est fortifié, et ainsi on peut vraiment rester à cette source d'eau de vie. Merci Seigneur pour l'arbre de la vie. Il y a vraiment un goût. Est-ce que quelqu'un a déjà changé sa façon de se nourrir? Si le médecin, par exemple, vous le conseille, moins de sucre, moins de graisse. Si tu l'as fait une fois, et puis on te propose de nouveau quelque chose de gras et de sucré, il se passe quoi? En fait, t'es dégoûté. T'as plus envie pendant des semaines, tu n'as pas goûté à ça, et puis quelqu'un vient avec ce genre de choses. Ça te dégoûte. Ben, je ne vais pas parler de la nourriture. Chacun sait, chacun se nourrit comme il veut. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on prend de la bonne nourriture spirituelle, eh ben en fait, on arrive à discerner. Après, tu arrives à remarquer, ah non, ça, j'en veux pas, c'est rien. Ça, j'en veux pas. J'ai pas donné mon temps pour cette chose. Ça, c'est clair. C'est une question de goût. Si j'ai mangé beaucoup de fruits frais, alors je ne sais pas comment on a du goût pour les conserves. Ça sent pas très bien. Bon, ça, en tout cas, ça n'a pas le même goût. On peut pas toujours manger des choses fraîches dans la vie humaine, mais spirituellement, c'est possible. Pourquoi est-ce que tu veux manger de la conserve? Pourquoi? Prends donc la vie. Le Seigneur est là. Il est frais. Il est vivant. La parole est là. Elle est riche. Elle a bon goût. Et elle nous nourrit vraiment. Là, on n'a aucune hésitation. Ne te pose pas toutes ces questions, ça on pourrait aussi faire, ça j'ai le droit encore. Je vais essayer de faire ça encore, pourquoi pas. Ce qui me plaît dans Apocalypse 22, au verset 2, c'est que l'arbre était des deux côtés, sur les deux bords du fleuve. Dans l'esprit, on a cette chance. On peut être entouré de la vie des deux côtés. C'est ça la question. Est-ce qu'on est entouré des deux côtés par la vie? On peut le demander au Seigneur. Si on n'est que d'un côté, on peut lui demander, Seigneur, mais amène-moi au milieu de la place de la ville. Nous voulons choisir la vie et nous nous donnons pour ça. Et c'est vraiment un salut. Dans les prochaines réunions, on en parlera encore plus. Cette consacration pour la vie, elle nous sauve, elle nous aide. Aussi pour servir, peut-être dans la réunion d'enfants, dans la réunion des plus grands. Ouais, c'est vraiment ce choix pour la vie. Chercher la vie pour toucher les enfants, pour pouvoir partager quelque chose. Je crois que j'arrête ici, mais j'aimerais encore dire une chose. Il y a là un fruit qui est produit. L'arbre de la vie produit du fruit. C'est un arbre très spécial, hein? Cet arbre produit 12 fois des fruits. Chaque mois, il y a quelque chose. Pas seulement à la conférence, pas seulement deux fois par année, c'est ça? Ou trois fois peut-être? Pas seulement le dimanche matin. Il y a une richesse infinie, il n'y a aucun manque. 12 fois chaque mois. 12 fois des fruits chaque mois. C'est vraiment la plénitude. Et on peut en prendre, puiser, manger. Puis à la fin, on voit que le Seigneur le donne pour l'Église. Dans Genèse 2, il y a ce jardin avec cet arbre. Et dans Apocalypse, là, il y a une ville. On ne l'a pas tellement développée. On ne peut pas tout regarder, tout partager, mais c'est ça qui est dans l'arrière-plan, c'est une ville. Et là, il y a un arbre. Parfois, on a de la peine à venir à cet arbre. Mais quand on a de la communion, cet arbre de la vie est là. Et dans tout ce qu'on fait dans la vie de l'Église, ça doit être notre centre, notre caractéristique. Prendre de l'arbre de la vie. qui porte son fruit chaque mois. Gloire à Dieu. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Et il y a la guérison. Mais nous voulons vraiment manger de cet arbre. Exerçons-nous à cela maintenant que la réunion est finie. Peut-être dans les maisons. Approchons-nous de cet arbre. Buvons de cette source. C'est pas seulement une image, mais le Seigneur veut nous amener totalement dans cette réalité. Gloire à Dieu.